Bonjour à vous.
Le coup de foudre, ça existe, pour de vrai?
Bah, il semblerait, hein, puisque Jean-Michel en témoigne, là.
Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, dans notre cerveau? C'est une histoire de sentiments, de chimie qui explique le coup de foudre?
Il y a de la chimie, c'est vrai. C'est un peu décevant, d'ailleurs, de se limiter à ça. Mais c'est un cocktail assez subtil, hein, de chimie. Il y a 4 molécules impliquées, en fait. Je vais être très rapide. Hein. Il y a la phényléthylamine qui est proche de l'amphétamine. Hein. C'est ce qui donne le bien-être. Il y a la dopamine, ensuite, qui crée la nervosité, le côté trépidant. Ensuite, la norépinéphrine, qui donne le côté euphorisant. Et enfin, et surtout, l'adrénaline, c'est la molécule du stress, hein, qui donne l'urgence, où la température augmente, etc. Et voilà. Et si c'est réciproque, il y a une 5e molécule qui arrive, qui est l'ocytocine, et qui est la molécule de l'attachement. Et si c'est pas réciproque, eh ben, les molécules disparaissent progressivement, mais ça peut aller jusqu'à 4 ans pour disparaître. Ah oui, selon le professeur de chimie de Laval, Normand Voyer, qui explique tout ça.
Donc ça, c'est des molécules qui vont s'activer dans notre corps, mais qu'est-ce qui va provoquer ça? C'est quoi? C'est un regard? C'est le physique qu'on va trouver beau? C'est une odeur?
C'est un petit peu une conjonction de plusieurs choses. Je pense qu'il y a d'abord une question d'attente, il y a aussi une question de chance, et puis il y a un petit peu un phénomène de miroir et d'idéalisation réciproque, mais c'est pas toujours réciproque, hein. De loin pas. Hein.
Malheureusement.
Il y a d'ailleurs, il y a toute une série de maladies du coup de foudre en psychiatrie qu'on connaît bien. La plus connue, par exemple, c'est la dépendance affective, la dépendance amoureuse. Ça c'est connu, hein, où on devient un peu l'objet de l'autre. On n'existe plus, hein, on se soumet à ses quatre volontés. Et puis il y a des maladies plus graves. Hein, il y a le délire de jalousie, qui est une maladie bien connue pour tous les. Les paranoïaques qui poursuivent de leur méfiance l'être aimé. Et à l'opposé, l'érotomanie, qui est la conviction délirante d'être l'objet d'amour de quelqu'un. Et on, avec toute une série de symptômes.
Je suis en train de me dire qu'en amour, il n'y a pas de hasard, Charles-Édouard Rengaine.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'hasard. En tout cas, le coup de foudre, c'est la part émotionnelle de l'amour. Et ça, c'est un cocktail explosif avec des hormones, bien sûr, un contexte, une disponibilité. Mais le vrai amour n'est pas hasardeux. Et le vrai amour n'est pas fait d'émotions.
Il est fait de quoi, alors?
Il est fait d'engagement, il est fait de promesses, de la force de supporter aussi les défauts de l'autre, de compassion.
C'est une grande part, ça.
C'est plus dur.
mais je crois qu'on dit souvent que le coup de foudre est facile à comprendre, mais quand deux personnes se regardent des années ensemble et restent ensemble, c'est là que ça devient un miracle.
Un coup de foudre, tout le monde peut vivre possiblement ce moment-là. Il faut que certaines conditions soient réunies. C'est une question d'ouverture d'esprit, de disponibilité.
Puis je ne sais pas si c'est une option, option coup de foudre. Alors tout le monde peut l'être, et parfois quand on ne s'y attend pas trop, mais en même temps il faut quand même être attentif. Je reste convaincu qu'on ne peut pas tout d'un coup, c'est pas une bûche qu'on prend sur la tête. Il faut un peu regarder, il faut être un peu attentif à son propre désir.
Le coup de foudre, Charles-Édouard Rengaine, ça peut déboucher sur une vraie belle histoire d'amour, sur une relation durable, ou alors le coup de foudre devra s'avouer à être quelque chose de fort, d'intense, mais de bref.
Je pense que les avis sont autant partagés que les expériences, parce que ça reste bref, et c'est souvent l'histoire. On évalue ça, c'est un peu difficile à estimer, mais autour de 3 ans maximum pour l'aspect émotionnel. C'est-à-dire que si on j'irais même jusqu'à dire que c'est plutôt 1 an si on reste sur l'aspect purement émotionnel, parce que c'est très centré sur ses propres sensations, et que pour que ça évolue vers l'amour, il va falloir être attentif à l'autre tel qu'il est dans sa différence. Et c'est dur dans le cas des coups de foudre, parce que dans le coup de foudre, on imagine que l'autre pense comme nous. On termine les phrases de l'autre, on imagine un peu que l'autre est notre miroir. Alors qu'en fait, la vraie vie, c'est pas ça. L'autre est vraiment différent, et plus on se ressemble, plus ces différences sont difficiles à accepter et à trouver.
Ça veut dire qu'on peut vivre plein de coups de foudre dans sa vie, ou est-ce que il y en a un vrai, et puis au fur et à mesure qu'on vieillit, ben, les coups de foudre, ça n'existe plus?
Je crois que le vrai coup de foudre, c'est avec sa maman. Non, alors c'est compliqué. Il y a des gens qui sont addicts au coup de foudre. Et alors là, je reviens dans la pathologie psychiatrique parce que c'est des personnes qui en souffrent souvent parce qu'ils n'arrivent pas à construire une relation. Et au bout d'un an, ils se lassent et ils mettent un terme à la relation en disant « Mais moi, ce que j'aime, c'est le début. »
C'est la passion.
Et ouais, la passion. Et on voit des gens, j'ai vu un monsieur il n'y a pas très longtemps qui lui a vécu une passion comme ça, mais c'était sans arrêt une relation explosive, flamboyante, mais du coup sans repos et sans capacité de mettre des rituels et puis un rythme, un petit train-train qui n'est pas forcément monotone mais qui est nécessaire pour la longévité du couple.
Mais c'est un petit peu un rêve, comme si on était sur un nuage tout le temps, c'est un peu ça?
Voilà, c'est ça, c'est un kiff. un rail, ben c'est ça, hein, les hormones euphorisantes, la norépinéphrine, c'est ce qu'elles provoquent, hein, ou la phényléthylamine, c'est comme des amphétamines. Et en fait, ça a un coût, hein, psychique, hein, ça ne peut pas durer, heureusement. Enfin, ou malheureusement, je ne sais pas. Mais...
on ne va pas se défier, on ne va pas se mettre d'accord sur ce coup-là. La vie de couple, un couple formé après un coup de foudre ou pas, elle ressemble rarement à un long fleuve tranquille. Elle passe par des moments de crise, de disputes, de conflits. Pas de couple sans conflit ?
Les couples que je vois, ils sont en conflit. Hein.
Oui, évidemment.
Oui, il y avait une histoire, hein, qui disait « Ah, je me suis marié », et l'autre dit « Contre qui ?»
Ah, oui. C'est rude, ça.
Oui.
Des couples qui sont toujours d'accord sur tout, qui se disputent jamais, c'est possible ou c'est une illusion?
On entend des gens le dire, hein. Moi j'ai un billet de recrutement, c'est vrai, je dois dire, hein. D'ailleurs c'est la première question que je pose à des couples qui viennent consulter, je leur demande, est-ce que vous voulez rester ensemble? Parce que parfois les couples consultent, mais c'est pas du tout avec l'intention de se rabibocher, hein. C'est dans l'intention de se donner raison à soi parfois, ou d'aller résoudre un conflit, mais pas forcément de rester ensemble.
Est-ce que s'il n'y a pas de conflit, c'est qu'il y a anguille sous roche? Ça veut dire qu'un des deux ne dit pas, n'exprime pas ses ressentiments?
Je ne sais pas, mais je crois que le conflit dans un couple, c'est une opportunité. D'ailleurs, on dit, hein, qu'on connaît vraiment quelqu'un qu'après s'être disputé avec lui. Et c'est vraiment l'opportunité de se découvrir. C'est ça la force du conflit, hein. Et d'ailleurs même, on parle en psychanalyse, on parle d'aller conflictualiser les choses, d'aller dire sur son ressenti, parce qu'on abat les cartes, on enlève les masques et on se révèle tel qu'on est un peu plus. D'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on dit, hein, dans le couple, on est vraiment soi et c'est ça qu'il faut, que l'autre doit supporter.
Le conflit, ça peut être un moteur.
Je le redis, c'est une opportunité, c'est même quelque chose qui permet d'aller découvrir l'autre tel qu'il est, un petit peu comme la première fois qu'on rencontre quelqu'un, quand il faut un peu se mettre à nu. C'est un peu la mise à nu de l'âme.
Provoquer des conflits, il y a certains qui aiment bien faire ça, hein. Provoquer des conflits pour le plaisir de se réconcilier sur l'oreiller ou ailleurs.
C'est Alfred de Musset, hein, qui disait « Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. »
Ouais.
Oui, alors, bien sûr, un conflit, c'est une opportunité quand il arrive à un dénouement heureux. Un conflit, s'il sépare, s'il détruit, si c'est la guerre, c'est absolument pas une opportunité, ça c'est sûr. On n'est pas dans la rencontre de l'autre. Mais c'est tout l'enjeu, en fait, dans la durée du couple. Un couple dure parce qu'il va surmonter ses conflits. Et la différence, je pense, c'est la question de l'humiliation. Si le couple va dans le conflit jusqu'à l'humiliation, c'est fini.
L'humilité est importante, justement. Il y a une question tout de même d'équilibre. Il doit y avoir plus de moments, j'allais dire en parenthèse, de bonheur que de conflit, non ?
Ah, je sais pas, il y a des gens qui communiquent que par cette modalité-là. D'ailleurs, on décrit, hein, Eric Berne, qui a inventé l'analyse transactionnelle, dans Des jeux et des hommes, il décrit ce qu'on appelle les jeux psychologiques, mmh. Où en fait on scénarise tout le temps le même conflit, et il y a des couples comme ça, alors parfois même en public, hein, il suffit de voir les films de Woody Allen, ou même près de chez nous. Et en fait, c'est des choses qui se répètent, ça c'est des jeux psychologiques, ça c'est des conflits qui sont presque une plainte qui se répète, une complainte.
Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus propices que d'autres à engendrer un conflit conjugal, ou alors c'est le couple qui va provoquer ou pas les conflits? Ou alors est-ce qu'on sait qu'il y a des sujets typiques, là, il y a une chance sur deux que ça dérape?
Ah oui, c'est une jolie question, ça. Oui, on dit que souvent qu'il ne faut pas parler de politique ou d'argent à table dans le couple. C'est souvent la famille de l'autre qui revient. Mais derrière, le vrai fond, c'est le besoin d'être reconnu au niveau amoureux. La place que l'autre laisse, la zone d'autonomie qu'on a et la proximité qu'on a. Les couples, par exemple, où il y a de la violence conjugale, conflit ultime, c'est des couples qui, en général, ne peuvent pas se séparer. Et dès qu'on introduit dans la thérapie la possibilité de se séparer, ça baisse un petit peu, pas toujours, hein, mais ça baisse un peu cette violence.
Ça veut dire que les conflits, en général, alors évidemment, c'est contre l'autre qu'on va réagir, mais ça veut dire que c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Je crois que vous avez très, très joliment résumé. D'ailleurs, je voulais le garder comme mot pour la fin.
On est presque au bout, mais pas tout à fait.
C'est vrai que le conflit avec l'autre sont souvent le miroir de nos propres conflits intérieurs. Évidemment, nos blessures du passé qu'on rejoue comme ça dans la relation, il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a l'immédiat de l'émotion et derrière, il y a toutes les émotions passées qu'on accumule et qui se stratifient comme ça et qu'il faut nettoyer. Les conflits n'arrivent pas à résolution si à une escalade et si on cherche toujours à convaincre l'autre. Et ils peuvent se résoudre dès qu'on commence à écouter l'autre. Et
les conflits, ça permet de nettoyer ça.
Alors, ça devrait être l'opportunité de le faire, de se livrer, de se dévoiler et d'expliquer d'où viennent ces blessures. Mais ça nécessite un peu de sagesse et, vous le disiez, hein, Jean-Michel, un peu d'humilité.
Et puis donc, on évite les humiliations. C'est ce qu'on va également retenir si on veut résoudre les conflits.
Oui.
Docteur Rangane, merci beaucoup d'être venu parler d'amour avec nous ce matin.
Mais merci pour tout cet amour.